Ainsi, des quatre coins de l'Empire surgirent des hordes de misérables. Müntzer chantait, la foule venait. Le landgrave de Hesse n'en croyait pas ses yeux. Puis ce furent les ouvriers des villes, les fous. Toute la paysannerie se souleva brusquement. Il y eut un grand effroi chez les nobles et les bourgeois. Les femmes quittaient le foyer. Les enfants marchaient à travers les champs à la suite du Saint-Esprit. Les jeunes filles, les vagabonds, la populace atroce, les bêtes même. On vit ainsi toutes sortes de gens, allant par deux ou trois, tout seuls aussi, partis sans bagages, sans rien. On ne savait pas ce qu'ils voulaient. Les seigneurs et leurs bandes armées n'osaient plus rien faire. Ils les regardaient passer, effarés. Une vague crainte commençait de naître. Que fallait-il décider? On n'avait jamais vu ça. Tout le monde laissait derrière lui sa maison, sa cahute, et rejoignait la foule errante. Et où allaient-ils tous ces gens? On l'ignorait. On craignait même de les disperser. Ils dormaient dans les bois, dans la paille, rêvant.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En 1524 et 1525, dans le Saint-Empire romain germanique, une grande peur agite les puissants. Terrés dans leurs châteaux, nobles et princes de l'Église se voient reprocher l'opulence dans laquelle ils vivent quand le peuple crève de misère. À l'écoute de prédicateurs prêchant la réforme et le retour à l'esprit des évangiles, les pauvres réalisent alors que Dieu, réputé pourtant être de leur côté, semble avoir été accaparé par les riches pour justifier servage, impôts et injustices. À leur tête, un diable d'homme, Thomas Müntzer, qui, ayant lu Luther et d'autres théologiens réformateurs, décide de mettre leurs propositions en application et même un peu plus. Depuis 10 ans, Éric Vuillard nous offre des livres qui nous ouvrent les yeux sur les moments de l'histoire où l'ordre, réputé immuable du monde, se déglingue. Déchirant d'une plume alerte et poétique les voiles pudiques jetées par les vainqueurs sur leurs crimes, leurs mensonges, leurs trahisons, il met en lumière la résurgence, après chaque défaite, du long et terrible combat des humbles pour une société plus juste. Il publie aujourd'hui, chez Actes Sud, « La guerre des pauvres », un récit bref et cinglant sur cette révolte des gens de peu, écrasés comme il se doit, dans le sang et au nom de Dieu. Un petit livre essentiel qui se lit à la lumière de notre actualité sociale. Bonsoir Éric Vuillard.
Bonsoir.
Alors, on sait que ce petit texte était déjà prêt, mais devait paraître plus tard, et que c'est l'actualité des Gilets jaunes, qui vous a poussé à le faire paraître plus tôt chez votre éditeur Actes Sud. C'est parce que cette actualité nous permet de jeter un regard plus clair, d'avoir les yeux dessillés sur l'histoire, une histoire très ancienne.
Oui, c'est que tout d'abord, il n'y a pas effectivement deux histoires qui seraient séparées l'une de l'autre, une histoire littéraire au fond d'un côté et puis une histoire politique et sociale. Elles sont mêlées, on ne peut pas les détacher. Et puis, effectivement, je crois qu'à l'inverse de ce qu'on peut s'imaginer au premier abord, c'est moins le passé qui permet d'éclairer le présent. Alors bien sûr, il y a des causes et des conséquences, donc ça, le courant va dans ce sens-là, mais c'est toujours du présent que l'on part. Enfin, nous vivons à notre époque, et effectivement, je crois que c'est le présent qui permet de comprendre le passé, et que ce sont par exemple la façon dont la répression aujourd'hui a lieu, la façon dont la négociation sert au fond à éteindre le processus, la révolte au fond qui a lieu en France, qu'on peut relire et comprendre la réaction des puissants du passé et ce soulèvement de l'homme ordinaire de 1525.
Mais Éric Vuillard, quand on regarde et quand on lit surtout vos livres, que ce soit la bataille d'Occident, Congo, le dernier L'Ordre du Jour qui a eu le prix Goncourt il y a 2 ans, ce sont des livres au fond qui nous racontent l'histoire qu'on pourrait dire des vaincus. D'habitude, l'histoire, elle est toujours racontée par les vainqueurs, par les gagnants des grandes batailles, par les empereurs, les rois, les princes. Là, vous nous racontez, dans le désordre, l'histoire des gens de peu, l'histoire de ceux qui payent par le sang leur révolte. Comment pourrait-on nommer cette histoire-là que vous racontez?
Au fond, ce qui m'est apparu peut-être davantage avec ce livre-là qu'avec les autres, c'est que précisément, on peut écrire l'histoire de deux manières au moins. C'est-à-dire, on peut l'écrire comme une chose qui est terminée, écrire un épisode du passé, comme un épisode clos sur lui-même, pris dans un périmètre donné. Et puis, on peut au fond, au contraire, l'écrire comme quelque chose qui n'est pas achevé, c'est-à-dire concilier. Ce qui, au fond, lit deux choses. Lit d'abord le fait que, évidemment, il y a des déterminations profondes qui, d'une certaine façon, nous dominent, des nécessités sociales, mais qu'il existe aussi une possibilité pour chacun et pour tous, en tout cas collectivement, une possibilité de décider de l'avenir. Donc si on peut décider de l'avenir, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Et donc à ce moment-là, on l'écrit plus de la même façon, on y est en quelque sorte le lecteur aussi bien que celui qui écrit embarqué, pris.
Mais au fond, si on considère que cette histoire-là, celle des révoltes récurrentes, cette histoire à bas bruit, si vous dites qu'elle n'est pas terminée, c'est une lecture relativement optimiste de cette histoire, alors que d'habitude, on nous la livre comme une histoire pessimiste, puisque à chaque fois que le peuple s'est révolté au nom des grands principes, même au nom des principes de la République, à chaque fois, il a perdu. Donc vous, vous considérez qu'il faut repousser ce pessimisme ?
Oui, enfin, je pense tout d'abord que le pessimisme, au fond, est une... il existe une sorte de métaphysique un peu au rabais, comme ça, qui nous vient à la fois de philosophie antique, de position religieuse antique. Au fond, on pourrait dire que l'ecclésiaste en est la formulation la plus belle poétiquement, que les écrivains, au fond, et les intellectuels utilisent comme ça et qui sert à peu de frais à donner une profondeur un peu, je crois, factice au roman, au récit que nous écrivons. Mais en réalité, ce pessimisme-là, il n'a pour lui justement que d'apporter cette fausse profondeur, le sentiment que, puisque tout est vain, enfin, celui qui dit ça a compris la vie, compris l'existence. Or, précisément, ce qui nous lie tous, c'est que, à l'égard du futur, nous sommes aussi démunis les uns que les autres. Donc, c'est une question de choix, en réalité, que de se dire qu'il y aurait rien à faire ou quelque chose à faire. Mais c'est un choix, curieusement, qui touche au fond au problème démocratique. On ne les lit pas, or celui qui est pessimiste, celui qui pense qu'il n'y a rien à faire, est précisément dans une position qui n'est pas démocratique, puisque ça signifierait donc que la délibération collective ne pourrait amener à rien. Mais si on regarde l'histoire de surcroît, l'histoire des révoltes, à partir du moment disons, où elles sont victorieuses, est une histoire récente. Donc il est normal qu'elles échouent en grande partie, mais il y a eu aussi des victoires. La réforme est une victoire partielle, mais une victoire tout de même, puisque c'est la possibilité, tout d'abord pour ceux qui savent lire, et écrire, de diffuser leurs pensées en langue commune, et grâce à l'imprimerie. Et à ce moment-là, c'est l'apparition surtout d'une subjectivité nouvelle, qui est la subjectivité de l'homme moderne, une subjectivité critique. C'est donc une première victoire qui va alphabétiser l'Europe et le monde. Donc il y a eu des conséquences réelles, concrètes. Et puis l'autre, c'est, je crois, la Révolution française, notamment, qui est une séquence longue, mais qui a eu des effets durables, et notamment le fait de formuler dans une autre langue, une langue très, très forte, les principes d'égalité et de liberté qui, depuis, se sont diffusés partout tout de même.
Oui, d'ailleurs, Éric Vuillard, quand vous parlez de cette révolte qu'on a appelée aussi la guerre des paysans, vous en faites la guerre des pauvres, qui a lieu dans un pays qui, pour les Français, et dans une histoire qui n'est pas la nôtre, donc elle est très peu connue en France, vous la reliez à la révolte anglaise deux siècles avant, et quand vous dites qu'elle a été possible grâce à la réforme, elle a été possible grâce au livre. Et c'est aussi ce qui la relie à cette révolte en Angleterre, ce moment où tout d'un coup, on donne accès au peuple, aux démunis, on leur fait toucher l'importance du texte dans leur langue. En Angleterre, la Bible a commencé à être dite en anglais. Là, dans ce XVIe siècle, Gutenberg a révolutionné l'imprimerie. Tout d'un coup, les livres, comme des vers dans le corps, écrivez-vous, commencent à se répandre. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que depuis toujours, l'éducation, la lecture, pas seulement la lecture de la Bible, la lecture des romans aussi, peut transporter des ferments de révolte importants dans l'histoire des hommes.
Oui, tout d'abord, il y a cette idée de mouvement, au fond, qui m'importait. C'est-à-dire que puisque, d'une certaine façon, le livre est écrit du point de vue d'une histoire qui n'est pas terminée, il fallait qu'il soit écrit comme un mouvement davantage que comme un épisode. Alors, ce que je dis là, c'est rétrospectif, hein, ça s'est fait, au fond, spontanément. Mais ensuite, en le relisant, c'est ce qui m'est apparu. Et donc, c'est pour ça que je remonte, donc, 2 siècles auparavant et que je raconte, comme ça, assez rapidement, comme une succession de pulsations, au fond, cette, ce qu'on pourrait appeler une sorte de pulsion égalitaire qui revient et qui s'exprime dans le langage, à ce moment-là, religieux, dans le langage chrétien. Alors, justement, la question du langage est centrale. C'est qu'on y voit, au fond, des gens qui sont des théologiens, qui sont pris dans une langue particulière, au fond, qui a ses règles, sa rhétorique, sa musique. Tout à coup, on entend justement cette musique changer. C'est-à-dire, plus la température politique monte, plus, au fond, cette langue devient d'une certaine façon subjective, puisqu'il s'agit de critique, il s'agit, vous le disiez au départ dans la présentation, de ramener au principe du christianisme, au fond, ceux qui les trahissent, et à ce moment-là, du coup, de reformuler ces principes d'une façon, disons, qu'aujourd'hui on dirait plus démocratique. Et là, c'est à la fois un nouveau mode de composition, des écrits qui peuvent se rapprocher de ce qu'on appellerait, nous, le pamphlet, plus tard on le verra avec Luther, les 95 thèses, par exemple, mais le ton même, la langue, elle-même change, et il y a quelque chose de prodigieusement ardent dans cette langue qui m'a beaucoup touché.
D'ailleurs, on va écouter une première lecture de votre livre La guerre des pauvres, Éric Vuillard. C'est le moment, justement, où commence à éclater cette querelle.
La grande querelle était de prôner un baptême volontaire et conscient. Oh, ça paraît un peu démodé, cette idée de baptême, ce rationalisme de fou furieux, cette Aufklärung des burettes. Mais c'est une réaction à la corruption de l'Église, à l'irrationalité de la doctrine et des sacrements. Car ils lisent autre chose qu'Augustin et Thomas d'Aquin, les fous furieux de Zwickau. Ils lisent Erasme et Nicolas de Cus, ils lisent Raymond Lull et Jean Hus, ils polémiquent, ils argumentent, ils veulent se tenir nus dans la vérité. Ainsi, la ville est partagée en deux. Il y a d'un côté les patriciens, à Sainte-Marie, de l'autre, à Sainte-Catherine, la plèbe. La raison et la pureté, ce sera pour les pauvres. C'est devant eux que Münzer commence à s'agiter. C'est là que sa blessure s'avive. Il parle, on l'écoute. Il cite les évangiles. « Vous ne pouvez servir Dieu et les richesses. » Il croit pouvoir lire les textes tout simplement, à la lettre. Il croit en une chrétienté authentique et pure. Il croit que tout est écrit noir sur blanc dans saint Paul, qu'on trouve tout ce qu'il faut dans les évangiles. Voilà ce qu'il croit. Et c'est cela qu'il va prêcher aux pauvres tisserands, aux mineurs, à leurs femmes, à tous les misérables de Zwickau. Il cite l'évangile et met un point d'exclamation derrière. On l'écoute. Et les passions remuent, car ils sentent bien, les tisserands, que si on tire le fil, toute la tapisserie va venir. Et ils sentent bien, les mineurs, que si on creuse assez loin, toute la galerie s'effondre. Alors, ils commencent à se dire qu'on leur a menti. Depuis longtemps, on éprouvait une impression troublante, pénible. Il y avait tout un tas de choses qu'on ne comprenait pas. On avait du mal à comprendre pourquoi Dieu, le Dieu des mendiants, crucifié entre deux voleurs, avait besoin de tant d'éclat. Pourquoi ses ministres avaient besoin de tellement de luxe. On éprouvait parfois une gêne. Pourquoi le Dieu des pauvres était-il si bizarrement du côté des riches, avec les riches, sans cesse? Pourquoi parlait-il de tout laisser depuis la bouche de ceux qui avaient tout pris ?
Éric Vuillard, comme souvent dans l'histoire des hommes, il faut la rencontre entre une agitation vague, là il s'agit d'une révolte paysanne contre une nouvelle taxe, et la rencontre d'un homme qui va devenir le porte-voix. Ce Thomas Münzer, il a ce talent-là de parler clairement de l'Évangile, de parler du Dieu des pauvres, et ce qu'il dit va rapidement passer sur ce fond de révolte de la critique de la religion et de la manière dont les prélats s'en servent à une critique sociale. Tout d'un coup, on passe de Dieu et donc de quelque chose qui est de l'ordre du millénarisme à une revendication très claire qui est de la justice. Aujourd'hui, c'est de la justice du partage des richesses.
Oui, c'est d'ailleurs une chose qu'on a vue aujourd'hui se produire de la même manière. C'est-à-dire, au départ, on a une taxe ou quelque chose de ce genre, les gens s'y opposent, et puis évidemment, le pouvoir va absolument parvenir sur ses décisions, et à ce moment-là, tout à coup, on peut dire que le rapport collectif, les solidarités qui apparaissent, aussitôt, faut reconsidérer les choses d'une façon plus vaste, et le problème s'élargit au problème que nous connaissons tous, au fond, qui est un problème crucial pour bien des gens, qui est que les inégalités sociales sont aujourd'hui encore absolument vertigineuses. Alors évidemment, à chaque fois, il y a un appareil idéologique qui est là, dans lequel on baigne. Bon, aujourd'hui, on peut dire que comme le communisme n'est plus disponible, c'est la Révolution française qui est d'une certaine façon prise d'assaut, si je puis dire, par les Gilets jaunes, et qui vont y puiser tout un tas de références, etc. Et à juste titre.
Et d'ailleurs, les cahiers de doléances aujourd'hui, comme dans ce temps de la guerre des pauvres.
Tout à fait, les réactifs, du coup, où on trouve en effet déjà ça. Et puis, évidemment, à l'époque, c'est le christianisme. Alors, Münzer, il y a cette chose tout à fait intéressante que... Il a une façon de citer, en effet, la Bible, plus que les évangiles, d'ailleurs, tout à fait particulière, et qui est, je crois, proprement l'activité de l'écrivain. C'est-à-dire, on ne peut pas, quand on lit la prose de Münzer, distinguer quasiment ce qui est de la citation de ce qui est de lui. Le rapport à la vérité, du coup, est si fort, au fond, que toute parole va prendre dans le même tissu, qui est au fond le tissu de ses démonstrations vigoureuses, lyriques. Et donc, à ce moment-là de l'histoire, je crois, c'est plusieurs choses qui convergent l'une vers l'autre. On peut dire le livre, la langue et un certain rapport à une vérité claire que tout le monde pourrait saisir.
On va écouter tout de suite une deuxième lecture parce que c'est la suite. C'est ce moment où Münzer se révèle en prêcheur d'un talent particulier.
C'est en essayant d'organiser la révolte en Thuringe à Hallstatt que Münzer se détacha des autres prédicateurs. Le fond devint social, enragé. La frange huppée de ses sympathies se mit à prendre peur. Il parlait d'un monde sans privilèges, sans propriété, sans état. Il excitait avec force contre l'oppression. Il appelait Luther « la chair qui mène molle vie à Wittenberg ». Il disait « il faut que le monde entier reçoive un grand coup ». Il disait « ce sont les seigneurs eux-mêmes qui font que le pauvre homme est leur ennemi. S'ils ne veulent pas supprimer les causes de l'émeute, comment cela pourrait-il s'arranger à la longue ?» Ah, cher sire, qu'il sera beau de voir le Seigneur frapper parmi les vieux pots avec une verge de fer. Dès que je dis cela, je suis un rebelle. Allons-y. Et il y alla. Puisque la révolte était venue, il proclama « Soulevez les villages et les villes, et surtout les compagnons mineurs et autres braves garçons qui seront bien utiles. Nous ne devons pas dormir plus longtemps. La révolte gronde dans la Hesse, la Haute-Franconie, en Thuringe, dans le Harz, en Saxe, de toutes parts, on se bouscule, on se heurte. Mulhouse et Erfurt sont au cœur de ce soulèvement populaire. Les châteaux sont rasés, les remparts crevés. Partout, on raconte que les paysans se révoltent, qu'ils vont aller jusqu'à Rome. On raconte que depuis les confins de la chrétienté, on se soulève, même chez les Turcs. Au départ, les princes ne surent que faire. La respiration du monde semblait accélérée. Il faisait jour sans cesse. Les oiseaux mangeaient de la terre, les bêtes dormaient debout.
Éric Villard, vous le dites, vous l'écrivez, Münzer était un écrivain possédé par la parole. Vous avez été assez séduit, pour pas dire ébloui, par les textes de lui que vous avez lus. Et c'est d'ailleurs probablement cette force d'expression et surtout l'emploi, pour une fois, des vrais mots nommant les vraies choses et non plus une langue édulcorée qui a fait de cet homme le leader de cette révolte. Ce qui manque assez singulièrement aujourd'hui, il faut bien le dire.
C'est que la société est très différente en un certain sens. Heureusement que la langue peut plus être aussi haute que celle de Münzer. Ça signifie d'une certaine façon que la société s'est démocratisée et que à la fois le savoir, la décision, c'est dissous au fond dans la masse. Alors qu'à l'époque de Münzer, la société est hiérarchisée, est beaucoup plus hiérarchique qu'aujourd'hui, mais surtout elle est hiérarchisée par le rapport à l'écriture et même à la parole, enfin à la chair.
Et à la connaissance d'ailleurs.
Tout à fait. Et donc les révoltés ont besoin de théologiens comme Münzer, et puis d'une certaine façon, c'est la théologie qui a ouvert la danse, si je puis dire. C'est Luther qui a ouvert cette séquence critique dans laquelle, à ce moment-là, la guerre des paysans vient s'inscrire. Mais là, tout à l'heure, dans la lecture, il y avait ce passage où je parle de mettre un point d'exclamation derrière les évangiles. C'est ça aussi qui est très curieux dans le rapport à la vérité. C'est-à-dire, le ton suffit aussi. C'est-à-dire, tout à coup, je parlais de ces citations de la Bible, trouvées dans un autre contexte, dit d'une autre manière, du coup, la même citation fait que on l'entend autrement et qu'une vérité, au fond, neuve s'y révèle. Et alors, ce qu'il y a de singulier avec Münzer, disons le Münzer écrivain, c'est que je pense que la littérature, au fond, a toujours eu son centre de gravité hors d'elle, tourné vers l'extérieur, tourné vers le réel, c'est-à-dire Balzac, Stendhal, Hugo, Malraux, c'est raconter le monde extérieur, trouver des moyens nouveaux de dire de manière plus juste la réalité. Et donc, évidemment, plus la température politique monte, eh bien, plus la littérature, à ce moment-là, est à l'extérieur, au fond, est active, au fond, agissante. Et avec Münzer, ce qu'on entend, c'est quel ton la littérature a lorsqu'elle est, au fond, confondue avec l'action, d'une certaine manière.
Et puis, alors, pour revenir plutôt à aujourd'hui, mais aussi en ayant sous la lumière de ce livre-là, de La guerre des pauvres, il y a cet emploi de la langue précise, je le disais, c'est aujourd'hui, lorsque les gens parlent, c'est aussi en révolte contre cette langue édulcorée qui nomme les travailleurs pauvres. On ne dit plus les prolétaires, on va dire des gens assistés plutôt que dire des miséreux. Or, aujourd'hui, ce qui est très très frappant dans cette révolte générale, c'est ce désir que les mots retrouvent du sens.
Oui, tout à fait. Ce qu'on entend tous, je crois, c'est que, à l'inverse de ce qu'on croit, je disais que la littérature avait son centre de gravité hors d'elle, c'est-à-dire qu'au fond, la littérature n'est pas tant du côté de la fiction comme on l'imagine. Je crois que c'est le pouvoir qui est du côté de la fiction en général. Et je crois que nous le savons tous, on en fait une sorte d'expérience quotidienne. Il suffit d'écouter à peu près n'importe quel homme politique, alors pas tous, mais enfin une grande partie tout de même d'entre eux, parler, pour se rendre compte que ce qu'on est en train d'entendre, justement, c'est de la fiction. C'est-à-dire que sa structure, c'est un texte écrit par d'autres, ce qu'on appelle aujourd'hui des communicants, et qui est ensuite récité par quelqu'un, c'est ça le théâtre, c'est la structure même du théâtre. C'est donc ça la fiction, et je crois que tout le monde en fait l'expérience, puisque cette parole sonne faux. Et donc là, précisément, quand on a un mouvement de l'ampleur des Gilets jaunes, et que des gens pour éteindre le mouvement parlent cette langue, eh bien elle tombe complètement à vide, en fait, elle échoue.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Get higher. I've got the capitalist blues. When I give everything, I won't have much more to lose. I am swimming in an ocean of sharks. They are telling me how I'm gonna make my little mark. Thank you.
Éric Villard, ce qui est aussi très intéressant et qui nous ramène à la problématique d'aujourd'hui, dans cette guerre des pauvres du XVIe siècle en Allemagne, c'est qu'au parti, au départ d'une révolte paysanne, ce mouvement va très vite entraîner des artisans, des petits commerçants, des petits bourgeois. Il y aura même quelques protecteurs plus fortunés qui vont au début, en tout cas, prêter main forte à Munzer. Il va au début agréger des gens qui n'ont pas l'habitude de protester ensemble.
Oui, c'est effectivement ça quelque chose qui rapproche cette révolte de la situation aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement très composite. C'est un mouvement composite, on y trouve des artisans, des petits commerçants, des petits patrons, des paysans, des ouvriers, des mineurs, on l'entendait dans le passage tout à l'heure. Et donc, je crois que c'est aussi ça le signe d'abord de quelque chose, le symptôme d'un problème collectif très large, mais c'est aussi la chance d'un accès du coup à une vérité universelle au fond. C'est-à-dire que du coup, la formulation que ce mouvement à travers Munzer et d'autres théologiens va donner à sa vérité, évidemment, on peut dire, touche la société de manière élargie.
Et puis, alors, évidemment, dès que Munzer va commencer à lever des troupes, que des châteaux vont être mis à sac, qu'on va parler de partage des richesses, là, tout d'un coup, la réaction ne va pas se faire attendre. Alors, avant d'en arriver à une bataille frontale, il va y avoir cette technique bien connue des gouvernants, la négociation. Et la négociation, c'est pas du tout pour négocier, c'est pas du tout pour lâcher, c'est pour gagner du temps.
Oui, c'est une technique, au fond, on le voit bien d'ailleurs, on le sait tous, au fond. C'est-à-dire que si la négociation était autre chose qu'une technique de combat, on nous la proposerait avant que les problèmes arrivent, au fond, puisque les problèmes, on les connaît. Les inégalités, par exemple, aujourd'hui, c'est pas il y a 11 semaines qu'elles sont apparues dans le débat public pour la première fois. Donc si véritablement les gouvernants, à toute époque, au fond, voulaient se montrer, disons, honnêtes et enclins véritablement à négocier, eh bien, avant que les problèmes ne se passent, ils proposeraient négocier. Non, la négociation est une technique qui sert d'abord à démobiliser au fond l'adversaire. Et puis, c'est le moyen pour le pouvoir, lui, de se remobiliser au contraire. Alors, en 1525, il s'agit surtout à ce moment-là de payer des mercenaires, de s'agréger d'autres puissants, au fond, avant de pouvoir entrer, donc, favorablement dans la deuxième phase, qui est la phase de combat réel et de répression, puisque la bataille de Frankenhausen, c'est à peu près 4 ou 5 000 morts, et en tout, les répressions de du soulèvement de l'homme ordinaire, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts. C'est donc, on peut dire que la négociation a abouti à ça. Alors, je pensais, l'autre jour, il y a un mois à peu près, j'étais 3 jours à Londres, et puis j'étais dans le quartier de Bloomsbury, et je me promenais en songeant justement à un petit groupe d'intellectuels qui, au début du XXe siècle...
Autour de Keynes, il y avait Virginia Woolf...
Absolument. Voilà, on eux négocié, on peut dire, d'une certaine façon. C'était des gens qui ont eu l'idée que... qui appartenaient tous à la bourgeoisie aisée, mais qui avaient l'idée que tout de même, on devait opérer une négociation, au fond, qui pourrait un partage un peu plus égal, pour le dire vite, des richesses. Mais ce qui m'a... Alors, je me promenais, donc je suis passé devant la maison de Virginia Woolf, là où habitait Keynes aussi, bon. Et puis, tout à coup, en me promenant... je tombe sur une plaque. Et sur cette plaque, je vois que Lénine, au même moment, vivait là. Et je me suis dit que j'ai beau leur conserver mon admiration et ma sympathie, néanmoins, c'est aussi la situation générale qui les rendait, disons, propices à la négociation. C'est que, évidemment, il y avait la menace communiste à ce moment-là. Et c'est donc toujours, malgré tout, même chez les gens les mieux intentionnés, un rapport de force défavorable qui fait que tout à coup, un certain milieu se trouve enclin à négocier.
Mais d'ailleurs, cette révolte des pauvres gens au XVIe siècle, elle a servi à Engels en 1850. Il a publié quelque chose autour de cette guerre des paysans comme des prémices de la révolte communiste.
Oui, oui, la figure de Munzer aussi a été à un moment interprétée, enfin sollicitée par le communisme, et puis après il est moins en Allemagne évidemment qu'ici, mais retombé dans l'oubli. C'est vrai qu'on y voit la réforme en tout cas est analysée, mais pas seulement du coup par Marx et Engels aujourd'hui, comme une étape en fond capitale de l'histoire de l'émancipation, essentiellement pour ce qui concerne, on peut dire, l'alphabétisation de masse qui au fond commence là, que pour la naissance de ce que j'appelais tout à l'heure la subjectivité société moderne et qui est une façon critique de considérer la façon, disons, dont les puissants appliquent les principes dont ils se revendiquent, et puis de tout à coup décréter qu'on est soi-même, au fond, tout à fait légitime à les interpréter.
Alors vous faisiez allusion, il y a juste quelques secondes, Éric Vuillard, à cette bataille terrible qui va clore cet épisode de révolte. C'est la bataille de Frankenhausen. On va écouter la lecture de la page de votre livre qui le raconte.
D'une fois passé le premier moment de stupeur, les princes réagirent. Ils ordonnèrent à leurs forces de se regrouper. Ça faisait quelques milliers d'hommes bien armés, aguerris. Les autres, les va-nu-pieds, s'étaient vaguement rassemblés dans une immense plaine et ils se tenaient là, sans que personne sache trop ce qui se passait. La troupe de vagabonds ne semblait pas se préparer à l'assaut. Le désordre était tel qu'il n'y avait sans doute ni plan, ni chef. Les paysans hésitaient à se rendre. Leurs artilleurs n'arrivaient même pas à charger leurs bombardes. C'était le chaos. Lorsque soudain, il y eut un arc-en-ciel. La grande colline chauve s'irisa. Le ciel devint très bleu. Münzer y vit le signe qu'il attendait. Il parla, on l'écouta. Comme tant d'autres avant lui, il invoqua un signe. Il voyait la marque de Dieu. C'était le moment décisif. On allait traverser le Jourdain. Alors on se mit à prier, mais pas à genoux. Debout. Ce devait être étrange, ces milliers d'hommes en guenilles et en armes, regardant le ciel. Puis, comme on attendait encore la réponse d'une ultime ambassade, l'artillerie des princes ouvrit le feu. Ce fut un désordre indescriptible. Les corps tombèrent, frappés. Il y eut des cris, de la fumée, on se sauva. Les coups reprirent. Les paysans couraient, hagards, fauchés par les balles. Münzer exhortait les hommes. Il hurlait sa confiance en Dieu, il les retenait par les manches. Ah, je ne sais pas ce qu'il faisait, sans doute il versait des larmes. Il rageait. Des cadavres gémissaient dans l'herbe, appelant, suppliant. Les grands arbres levaient leurs bras impuissants. Le ciel était maintenant d'un bleu immense, horrible.
Éric Vuillard, la répression va être à la mesure de la grande peur des puissants. Münzer va être bien sûr attrapé, maltraité, décapité. Et là, il va y avoir des dizaines de milliers de morts massacrés pour que cette révolte reparte bien profond et qu'aucune concession, finalement, ne soit accordée.
Oui, alors tout d'abord sur les désordres pour mieux comprendre. Au fond, la révolte a été spontanée. Ça n'est pas Münzer qui l'a décrété. Donc ensuite, il a décidé de l'accompagner, qui avait plus le choix. Ce qui explique en partie donc l'aspect chaotique au fond de la façon dont ils se défendent. Sans compter que parmi ceux qui s'étaient associés à eux et qui étaient un peu versés dans la stratégie militaire, ben, petit à petit, plus le mouvement se radicalisait et plus ces gens-là s'en séparaient. Et donc oui, la répression va être forte et vise donc à éteindre définitivement tout mouvement de contestation. Mais tout ça va laisser évidemment, comme toujours, des traces. Enfin, d'abord, on a les écrits évidemment de Münzer, et je crois que une fois que ce qu'on peut appeler une vérité a été prononcée dans l'histoire, elle y laisse des traces en quelque sorte indélébiles. C'est-à-dire à partir du moment où le christianisme a formulé le principe d'égalité entre les hommes d'une certaine manière dans une langue neuve, et bien au fond cette vérité rétrospectivement est valable depuis toujours. C'est-à-dire les hommes ne sont pas uniquement égaux depuis la Réforme ou depuis la Révolution française. Non, ces dates-là, au fond, nous permettent de relire toute l'histoire. Ils sont égaux depuis toujours. Et au fond, l'écho de cette parole continue, je crois, de se propager.
Alors, ce qui est intéressant quand on lit tous vos livres, Éric Vuillard, c'est justement que ça nous amène à une réflexion assez amer d'ailleurs sur la démocratie, sur le fait que des révoltes peuvent faire croire, ou des révolutions peuvent faire croire qu'on va obtenir du terrain, qu'on va gagner sur ces principes de toujours, sur la plus de justice, plus d'égalité, et on se rend compte qu'au fond, ensuite, les élus, ceux qui viennent nous représenter, n'ont de cesse que de regagner le terrain perdu. La démocratie, au fond, est une chose à surveiller de près, mais surtout c'est un combat quotidien, c'est pas seulement le combat de la Révolution française, de la guerre des pauvres, c'est quelque chose qu'il faudrait expérimenter chaque jour.
Oui, c'est qu'au fond, tout à fait, la démocratie n'est pas une chose qui a été décrétée une fois pour toutes dans une forme donnée. C'est un processus, en fait. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la représentation, et qui nous apparaît, au fond, momentanément, comme étant quelque chose de durable, ou peut-être même d'éternel, n'est au fond sans doute qu'une étape, puisque la représentation, ça n'est quoi sinon une nouvelle forme de distance, au fond, une nouvelle forme, disons, plus...
Polissée.
Plus tempérée, voilà, de captation du pouvoir, malgré tout, par un petit groupe. Et ce qu'on voit tout de même, c'est qu'il suffit, quand on regarde n'importe quel parlement, on s'aperçoit que le pourcentage d'ouvriers, mettons, de secrétaires ou d'employés est infiniment inférieur que le pourcentage d'avocats, de cadres, dans des proportions absolument énormes, en fait, vertigineuses. Mais si c'était le cas que d'un ou deux parlements, mais c'est le cas de toutes les instances de représentation. Si bien que, au fond, dans ce cas, on peut plus du tout se dire que c'est réformable. Ça signifie que la procédure elle-même est défaillante. Et au fond, en science dure, quand une chose se produit partout sans exception, on appelle ça une loi. Et donc la loi, c'est tout de même que la représentation, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, ne représente pas finalement le peuple.
Donc, on donne tort à Winston Churchill sur la démocratie, le pire à l'exception de tous les autres.
Moi, c'était surtout dans un contexte, au fond. Tout est toujours dans un contexte. Au moment où Churchill le dit, sa phrase dit deux choses. Elle est à la fois, c'est comme toujours chez lui, c'est une phrase intelligente, mais malicieuse. C'est un démocrate, Churchill, mais disons, en un sens très traditionnel, en tout cas du mot de démocratie. Ça n'est pas un fanatique de la démocratie, je ne sais pas comment le dire, si bien que c'est une phrase à la fois, c'est une phrase dialectique, au fond, elle s'oppose à ceux qui ne sont pas démocrates, et dans ce cas, c'est une phrase formidable, mais on le voit que c'est aussi une phrase sceptique, qui n'imagine pas justement que la démocratie puisse être un processus. Or, on peut tout de même tout à fait envisager, et ça serait, je pense que c'est ça, un avenir meilleur, que d'ici, je sais pas, 5, 10, 20 ou 30 ans, nos régimes qui semblent nous apparaître aujourd'hui comme devoir durer toujours et puissent au contraire apparaître comme ayant été des régimes au fond très inégalitaires et où la liberté pouvait faire des progrès. Important.
Alors vous-même, Éric Vuillard, vous avez fait un peu le tour de ces assemblées de gilets jaunes avec intérêt.
Ah bah je suis allé à certaines manifestations dès que je l'ai pu. Oui, tout
et
à
vous
fait.
Vous y avez recueilli de quoi espérer.
Oui, absolument. J'y ai trouvé beaucoup d'intelligence et beaucoup de vigueur.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui parler avec nous de tout et du reste aussi. Et notamment de ce livre « La guerre des pauvres » qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Merci à vous, Éric Vuillard. À bientôt, j'espère, pour un nouveau livre.
Merci, à bientôt.
Au revoir. C'est fini pour l'humeur vagabonde de ce jour. Nous nous retrouverons dans une semaine. Mais bien sûr, France Inter continue, puisqu'après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Julia Foyce et son Babel sur scène. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter, bien entendu.